creuse les années folles.
Plus jamais ça, because les années folles. Bienvenue les amis, bienvenue à cette rentrée de septembre. J'espère que vous avez votre petit cartable, vos crayons. Je plaisante bien sûr. En cette spéciale rentrée de septembre, je vous propose une thématique sur la grandeur. Autrement dit, Gatsby le Magnifique. Et oui, c'est un thème populaire qui nous tient à cœur parce que c'est un film d'amour avant tout. Gatsby le Magnifique, vous en souvenez peut-être, c'est ce film de 2013 avec le beau et charmant Leonardo DiCaprio dans le rôle de Jay Gatz. Alors c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Donc, qui est Francis Scott Fitzgerald ? Qui est-il ? Eh bien, c'est l'écrivain qui a écrit ce livre et qui a été adapté plus tard au cinéma. Et également, on va parler de son œuvre, donc le livre de Gatsby le Magnifique, et également de la filmographie, donc l'adaptation des différents films, effectivement, au cinéma. Alors, dans une deuxième partie, les amis, je vous propose une autre thématique qui reste sur le thème de Gatsby. Et oui, je n'ai pas triché, je suis restée sur le même. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir un artiste local de notre cher département du Nord. Et oui, c'est Gatsby Music, un artiste local et très talentueux qui reprend tout le répertoire des années 20. Et également toute l'élégance, le charme et tout le répertoire, effectivement, un peu swing également. Il vous en parlera à travers un interview que j'ai fait avec lui et vous découvrirez ses inspirations, ses musiques et bien sûr ses morceaux. J'espère que l'émission déjà vous met l'eau à la bouche. Alors, je vous prépare quelques musiques beaucoup plus modernes que d'habitude, puisque ce seront des musiques extraites notamment du film Gatsby le Magnifique. Donc, on va poursuivre sur la gaieté, sur une pause musicale. Alors, c'est parti! Great Gatsby's. Gatsby's.
Now if you run into a 5'2" covered with fur, diamond rings and all those things, that's your life, it isn't her. Could she love, could she woo, could she coo, has anybody seen my girl?
Great Gatsby's.
Now if you run into a 5'2" covered with fur, diamond rings and all those things, that's your life, it isn't her. Could she love, could she woo, could she coo, has anybody seen my girl?
Alors, vous avez aimé cette danse hyper effrénée où vous avez dû gigoter tout votre corps? Et oui, c'est un morceau extrait de la bande originale de Gatsby le Magnifique de 2013, comme je vous ai dit. Alors, comme je vous ai dit, nous allons parler de Francis Scott Fitzgerald. Qui est cet écrivain et qu'a-t-il adapté dans son livre ? Alors, Francis Scott Fitzgerald est né en 1896 et est mort en 1940. Donc, si vous faites le compte, même si vous n'êtes pas très fort en mathématiques, vous voyez très bien qu'il n'a pas vécu énormément de temps. Alors, regardez un petit peu sur Internet, tapez Francis Scott Fitzgerald et vous verrez les photos. Alors, quand on voit les photos de cet homme, on voit un homme tiré à quatre épingles, mais mal à l'aise, toujours élégant, comme s'il devait toujours être appelé à partir et d'une élégance extrême. Alors dans les photos, on les voit toujours avec son épouse, hein, Zelda, ou en loisir ou en vacances, mais jamais en tant qu'écrivain. On dit de lui l'élégance de l'homme, du monde, la violence du désespoir. Ça résume vraiment Francis Scott Fitzgerald. Alors qui est-il ? C'est un écrivain américain issu de la petite bourgeoisie du Minnesota. Alors il va s'engager à la guerre en 1917 et là il rencontre en 1918 Zelda. Et pour la conquérir, et oui l'amour fait tout, pour la conquérir il va écrire le bouquin Le romantique égotiste qui à l'époque n'a pas un immense succès hein, évidemment. Puis le titre va être changé qui va s'appeler après L'envers du paradis en 1920 qui est un gros succès. Et ce gros succès lui permet donc financièrement de pouvoir épouser sa belle et tendre Zelda. Alors, il est Francis Scott Fitzgerald représente vraiment la génération perdue des années folles. Hein. Mais il reste vraiment la figure emblématique des années 20. Et il meurt pourtant, comme d'autres, comme Kiki de Montparnasse, dans l'indifférence totale. Avec sa femme Zelda, il va représenter un peu le couple excentrique qui est dans le scandale, l'alcool, qui passe de New York jazz au luxe tapageur des Antilles. Bah, voilà, on le voit un peu partout, on a cette image de lui. Hein. Et il va connaître l'Amérique meurtrie également de la dépression, les Hollywood et également des écrivains à gages. Et oui, c'est une drôle d'époque. Hein. Mais la qualité et la finesse de son écriture font de lui qu'il est inscrit quand même au panthéon des lettres universelles. Et oui, rien que ça. Mais Fitzgerald ne s'est jamais senti à l'aise en tant qu'écrivain. Il s'est toujours senti comme un imposteur. De par son milieu social, n'oubliez pas qu'il vient de la petite bourgeoisie. Et Zelda, son épouse, était plutôt de la haute bourgeoisie, une vieille famille bourgeoise. Alors, un peu comme son personnage Gatsby, dont nous parlerons juste après. Alors, dans ses livres, on voit souvent de l'amertume, une espèce de ronchonnerie incarnant la jeunesse d'époque. Gatsby le Magnifique est écrit en 1925. D'ailleurs, il va être lu par Hemingway à la Closerie des Lilas. Vous avez dû vous en souvenir quand vous avez écouté mon émission sur les brasseries. J'en parle notamment de cette petite anecdote. Ensuite, il va écrire également un livre qui s'appelle « Heureux et damné ». Tendre et la nuit, qui est un excellent bouquin de Fitzgerald, qui est écrit en 1934. L'étrange histoire de Benjamin Button, qui a été adapté au cinéma d'ailleurs. La fêlure et bien d'autres nouvelles qu'il va écrire pour subvenir à ses besoins. C'est un des meilleurs écrivains de son époque, de sa génération, notamment américaine. Mais n'oublions pas qu'il va mourir à l'âge de 44 ans d'alcool et de dépression. Voilà, c'est un peu triste quand on sait le talent de cet homme. Alors nous allons passer à une deuxième pause musicale qui nous permettra de parler de notre thème principal, Gatsby le Magnifique. Donc vous êtes prêts à sautiller de nouveau sur votre chaise et à vous dandiner. Alors c'est parti.
Back.
Vous avez entendu les merveilleux morceaux de Brian Ferry, donc fait pour cette BO de Gatsby le Magnifique de 2013. Brian Ferry qui s'est toujours intéressé aux années 30, c'est ce merveilleux dandy des années 80 où vous avez notamment ce tube interplanétaire de Slave to Love. Donc là c'est vraiment, il a fait tout un album consacré aux années 30 avec son orchestre et c'est vraiment un bijou à écouter. Alors, nous allons continuer à parler de Francis Scott Fitzgerald et là, plus précisément, de Gatsby le Magnifique. Alors, il faut savoir que Gatsby le Magnifique a eu un énorme succès, mais pas dans l'immédiat. Hein. Tout de suite, ça n'a pas été le cas. Mais en 1925, donc il faut savoir que Gatsby le Magnifique, c'est avant tout le troisième roman de Francis Scott Fitzgerald. Il faut savoir qu'il a mis à peu près 10 mois à l'écrire et on dit que c'était assez pénible pour lui, que l'écriture a été compliquée. Pourtant c'est un petit bouquin hein, qui fait 150 pages, mais quand on pense à Gatsby le Magnifique, effectivement vous avez surtout l'idée de fête, hein, faire la fête grâce notamment à ce film de 2013. Il faut savoir que Gatsby le Magnifique n'a pas toujours eu ce titre. Oui, c'est toujours compliqué effectivement de traduire un livre et un titre. Donc au début c'était l'homme au chapeau d'or et ensuite il y a eu un titre un petit peu abracadabrant dont je ne me souviens plus trop. Mais le premier traducteur qui a traduit Gatsby le Magnifique a eu vraiment le flair parce que c'est ce qui correspond vraiment à l'œuvre respectée de Francis Scott Fitzgerald. Il faut savoir que la langue de Francis Scott Fitzgerald est une langue très difficile à traduire parce qu'elle est faite de sonorités et d'images. On dit d'ailleurs de Fitzgerald qu'il a une langue de musicien, notamment Jacques Tourneur, pour ne citer que lui. C'est un roman avant tout, pas d'histoire, mais un roman de personnages. Et oui, on s'attache vraiment à chaque personnage de l'histoire. Donc c'est un peu basé sur cela, sur les personnages, leur description, leur charisme, et on va faire un petit peu le tour de cette histoire justement. Donc cette magnifique langue de poète qu'il faut savoir avait eu 7 adaptations de l'œuvre et 3 en filmographie comme je vous avais dit en 1926. Donc il y a eu un film muet qui est sorti sur l'œuvre mais on ne retrouve plus aucune copie. On sait cependant qu'elle a existé. Alors il y a eu ensuite en 1974 le film avec le magnifique Robert Redford. Je dis souvent le magnifique mais c'est vraiment le terme, très élégant, qui vraiment fait honneur au personnage. Et ensuite nous avons bien sûr en 2013 l'adaptation de Baz Luhrmann avec DiCaprio. Il y a eu également un film en 1949 qui s'appelle Le Prix du silence, qui est sur la personnalité mégalomane du personnage de Gatsby. Ensuite, l'histoire de Gatsby, on va en parler juste après la petite pause musicale. Là, je vous ai un petit peu débriefé grossièrement ce dont ça parle et la langue de Francis Scott Fitzgerald. On va passer juste après la petite pause musicale, si vous le permettez, puisque c'est bien agréable, à parler de ce personnage. Alors, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Love is a Drug, donc de Brian Ferry. Vous avez toute la thématique de Gatsby dans ce titre, Love is a Drug, l'amour est une drogue. Et ça nous permet d'enchaîner justement sur la thématique de Gatsby le Magnifique. Alors, c'est quoi l'histoire de Gatsby le Magnifique ? Alors, c'est l'histoire d'un riche millionnaire, un jeune millionnaire, Jack Gatz, qui vit dans le manoir gothique de Wet's Egg, donc dans le New York dès 1920, donc en 1922 précisément. On est dans l'univers où l'alcool coule à flot, ce qui est étonnant puisqu'on est dans l'ère de la prohibition. Et le livre donc va tourner autour de ce personnage jeune, donc ce milliardaire qui fait fortune dans la contrebande d'alcool. C'est un personnage assez mystérieux, donc on sait qu'il a fait sa richesse grâce à cela, donc, mais il ne vient pas effectivement de la haute bourgeoisie. Donc avant de partir à la guerre, il a fait la connaissance de Daisy dont il était éperdument amoureux. Et quand il repart, justement, il a ce mystère, ce passé trouble où il vit luxueusement dans sa villa, donc rempli d'invités de fêtes. Mais le seul but de ces fêtes, c'est qu'il soit célèbre et c'est qu'il se fasse connaître à nouveau de Daisy, de faire à nouveau venir Daisy, de l'attirer vers lui. Donc c'est uniquement le but de Jay Gatz. Donc on va voir un autre personnage également, le narrateur dont il va se servir. Donc c'est son voisin, vous avez ce narrateur qui va, Nick Hanaway, qui va justement l'aider à revoir Daisy. Alors quand il revoit Daisy, malheureusement il apprend que celle-ci est mariée avec un ignoble personnage qui est grossier, brutal, méchant et qui la trompe allègrement. Donc Daisy évidemment va être troublée de cette rencontre et on s'aperçoit qu'elle l'aime à nouveau. C'est une véritable romance sentimentale. Mais un drame se produit. Je ne vous dis pas ce qu'il en est, je vous invite à revoir le film justement. Et donc Daisy va être face à un choix. Malheureusement, le choix va être celui de la sécurité avec un homme qu'elle n'aime pas, mais dont elle garde cette vie luxueuse puisqu'elle y trouve son compte financièrement et matériellement. Alors les trois personnages de Gatsby le Magnifique vont être Gatsby qui va représenter, symboliser la volonté, la naïveté, l'humanité, une grande humanité autour de ce personnage. Daisy également, l'amoureuse, et Tom qui est le mari de Daisy, donc qui représente la violence, l'ennui, l'indolence. Donc dans la description du personnage de Gatsby, on ne décrit jamais Gatsby. Tout ce qu'on voit dans le roman, à peu près à la page 35, c'est sa silhouette et une longue description de son sourire. On sait également qu'il porte des vêtements excentriques, mais on n'en sait pas plus. Alors Fitzgerald a cet art justement de faire un roman de personnage parce qu'on va s'intéresser à ce personnage par trois biais, par son charisme, sa profondeur et son humanité. Voilà, et c'est ce qui va attirer le lecteur à s'identifier à ce personnage. Il y a également toute cette célébrité, les fêtes qu'il organise. Daisy va, elle, représenter plutôt, elle va être décevante en fait. On s'attend effectivement à ce qu'elle retourne vers lui, mais non, pas du tout. Donc on va être un peu déçus. Donc dans cet univers, Fitzgerald décrit la fête et la folie de l'entre-deux-guerres aux États-Unis. C'est un des premiers succès dans le milieu des années 20 et on y découvre une société très oisive, indolente, avec une opulence d'alcool. Donc Fitzgerald nous pointe du doigt un petit peu cette société qui est et qui reste malsaine. Il était fasciné par cette société et c'était sa façon également avec sa langue poétique de décrire un petit peu l'ambiance des années 20. Donc ce n'est pas un témoignage tout à fait puisqu'il vit à cette époque, mais plutôt une fiction. Et c'est pas une œuvre qui est vraiment gaie, parce que bon, vous le verrez, je ne décris pas tout dans le film, bien que j'en ai dit un peu trop, mais c'est une œuvre à lire un petit peu vers l'âge de maturité, parce que c'est une réflexion sur le bonheur finalement. L'espérance au bonheur, voilà, c'est une espérance au bonheur. Donc, et Fitzgerald réussit vraiment à être un excellent romancier et à exceller dans ce style, justement. Donc, je vous invite autant à lire le livre qu'évidemment à voir le film. Donc, le film dont nous allons parler tout de suite, je vais vous mettre un petit extrait, justement, de ce film. vous y verrez une scène avec Leonardo DiCaprio, vous entendrez plutôt une scène avec Leonardo DiCaprio et Tom. Je vous laisse donc découvrir cette scène, on en parle juste après. C'est parti.
Table chez vous, c'est votre argent. Votre argent, c'est tout. J'en ai tout autant que vous. Nous sommes donc égaux.
Oh non, non. Nous sommes différents. Moi, elle et lui, et Daisy, nous sommes tous différents de vous. C'est que nous sommes nés différents. C'est dans nos veines. Et vous pourrez dire ce que vous voudrez, faire ou voler, rêver ce que vous voudrez, ça n'y changera jamais rien. Une vie comme des...
Gatsby, à cet instant, avait vraiment l'air de quelqu'un qui avait tué un homme.
Vous avez entendu ce magnifique extrait, donc ce duel entre ces deux hommes qui se partagent cette femme, en fait, l'amour pour cette femme. Et vous voyez très bien les liens sociaux se détacher à travers cet extrait. Alors, je vous propose un petit match par la suite entre les deux versions donc, qui ont été faites de Gatsby le Magnifique. Donc il y a eu la version, comme je vous ai dit, en 1974 avec Robert Redford et Mia Farrow. Et également la version de 2013 donc, avec Leonardo DiCaprio et Carey Mulligan. Donc vous êtes prêts pour un petit match entre les deux. Nous allons donc nous y mettre et voir qui va gagner le match, la meilleure adaptation filmographique. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, on va lancer la cloche du match entre ces deux films. Voilà, donc c'est parti. Alors on va parler donc ces deux adaptations, comme je vous ai dit, avec en 2013 et puis en 1974, elles sont assez fidèles à l'œuvre de Scott Fitzgerald, hein, il faut le dire. Alors, en 1974, on va voir au niveau des personnages. On a Robert Redford et en 2013, Leonardo DiCaprio. Robert Redford, beauté saisissante et charisme. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas retrouver le côté ténébreux du personnage qui est décrit dans l'œuvre de Fitzgerald. Ensuite, du côté de Leonardo, on va avoir un personnage qui est plutôt amoureux, qui est maladroit, qui est très fragile et qui élève l'idéal vraiment de l'amant sacrifié vers le tragique. Et là, c'est une immense interprétation. Donc, si j'ai à donner un score par rapport aux deux personnages, je vote pour Leonardo DiCaprio. On va poursuivre également au niveau des personnages, des héroïnes, donc Daisy. Daisy, alors en 1974, c'est Mia Farrow qui, par son trouble, son inquiétude, joue très bien cet aristocrate qui dissimule son ennui sous sa superficialité. Et de l'autre côté, en 2013, on a Carey Mulligan, hein, qui est une habituée, on peut le dire, des héroïnes romantiques. Et qui représente bientôt la futilité dans cette filmographie, dans ce film de 2013, la cruauté et la futilité. Mais on a quand même du mal à croire au couple romantique entre elle et Leonardo DiCaprio. Donc, mon vote va pour Mia Farrow, évidemment, qui interprète magnifiquement ce rôle de Daisy. On va continuer également. Alors, quelle est la meilleure version? Quelle est la meilleure version entre 2013 et 1974? Alors, ce sera toujours selon mon avis propre. Hein. Alors, en 1974, vous aviez ce scénario qui a été signé par Coppola. Et oui, rien que ça. Et la photographie est mise en scène par Jack Clayton, qui magnifie cet homme au passé trouble et qui ne vit que pour réanimer cet amour inconditionnel. Et en 2013, vous avez cette adaptation de Baz Luhrmann. Alors, la mise en... il ne faut pas oublier que c'est le réalisateur de Moulin Rouge. Hein. Donc, une mise en scène qui est un peu hystérique, avec des musiques qui vont à fond. On épingle très bien la superficialité de par cette profusion de sons de l'aristocratie de l'époque. On a des scènes gigantesques, de fêtes délirantes. Tout est dans la démesure. Ce qui, à mon sens, est un peu anachronique par rapport à l'œuvre de Fitzgerald. Et oui. Voilà, je donne un punch, effectivement, à la version de 2013. Alors, résultat des deux. Et oui, vous l'avez deviné, pour moi, la meilleure version, c'est la version de 1974. Je souligne cependant que l'interprétation de Leonardo est pour moi la meilleure en fait, hein, la plus. Et oui, il n'y a que ça à dire, parce que Leonardo DiCaprio est à mon sens un immense interprète et acteur qui interprète magistralement le spleen, la fragilité, le côté très amoureux et pris du personnage de Gatsby. Voilà, je vous propose une dernière page musicale et ensuite je vais vous présenter l'artiste dont je vous ai parlé, Gatsby le Magnifique. Alors, on est parti pour une petite pause musicale et je reviens juste après. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti.
Can't leave her, forever I always need her. She lied, but I believe her. Love sick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know, cause I'm a fool in love. My baby shot me down again. Shot me down with a love and it go bang, bang. That girl's a killer from a gang. Shot me down with a love and it go bang, bang. And oh, I love her, so that's why I gotta let her know that I'll be here for her to always love her down. And baby, that's the truth, them clucking chickens ain't no use. I wanna wear my tux and see you in your gown.
Bang, bang, shot him with a bang. Love him down, down, and shot my baby with a bang. Bang, shot him with a bang.
Bang, bang, bang.
without you. You're the starch in my collar, you're the lace in my shoe. You'll be all with my necessity, I'll be lost without you.
Vous avez entendu donc un extrait de ce que fait Gatsby Music. Donc Gatsby Music, j'ai reçu en interview dans les studios de Luca Jones, qui est un réalisateur de notamment Paranormal Story. Donc je tenais à le remercier chaleureusement pour nous avoir prêté son studio d'enregistrement pour cette interview. Et je vous lance tout de suite donc l'interview qui a été réalisée donc à Lille avec Christophe Avril, autrement dit Gatsby Music. C'est parti. Bienvenue Christophe. Comme promis, je vous avais promis un invité d'exception qui représente pour moi les années 20, mais ici-bas dans l'actualité présente. Alors Christophe Avril du groupe Gatsby Music. Peux-tu te présenter, s'il te plaît ?
Bonjour Elisa, merci pour cette présentation en fanfare. Eh bien oui, moi je suis Christophe Avril, voilà, je suis musicien dans ce groupe Gatsby Music dont on va parler juste après. Je suis musicien dans l'âme depuis toujours. Oui. Je dis dans l'âme parce que c'est pas mon métier au quotidien. J'ai un travail voilà, qui occupe une grande partie de mes journées, mais j'ai toujours fait de la musique. À mes heures perdues, les week-ends, les vacances, et ce depuis ma plus tendre enfance. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'allier donc ma passion de la musique et de ces belles années dans ce projet Gatsby Music.
C'est génial. D'ailleurs, on a collaboré ensemble avec l'association Les Années Folles, avec un grand plaisir, et c'est toujours une joie de te voir, parce que tu es un gentleman, aussi bien dans la musique qu'au niveau humain, je tiens à le préciser. Et pour parler de Gatsby Music, dis-moi, d'où t'est venue l'idée ? Est-ce que c'est une ode à Fitzgerald ? Ou dis-nous un peu plus.
Alors Gatsby Music, faut savoir que c'est un projet qui a lentement mûri depuis très longtemps, parce que depuis les années 2000, en fait, bon, je vais pas revenir sur mon activité musicale depuis ma plus tendre enfance, mais depuis les années 2000, en fait, je me suis intéressé vraiment au jazz et au jazz rétro. Ceci après un voyage à New York qui m'a fait découvrir cet univers. Et donc j'ai eu la chance pendant une vingtaine d'années maintenant, le temps passe vite, d'avoir plusieurs formations jazz. Mais toujours dans le thème rétro, les années 30, les années 40, les années d'après-guerre, j'ai un peu touché à tout. Et de fil en aiguille, comme j'ai aussi, de par mon passé et mes origines familiales, un attrait pour la musique mécanique, parce que moi, il faut savoir que je viens du milieu forain, que j'ai grandi dans une roulotte et que mes parents avaient des manèges.
Ah, c'est formidable.
Donc voilà, on avait aussi dans les fêtes foraines des orgues de barbarie, des pianos mécaniques, etc., qui jouaient aussi ces airs d'époque. Et j'ai aussi cette imagerie dans la tête qui a lentement convergé avec l'univers du jazz, parce que ce sont deux univers qui viennent de la même époque et qui sont vraiment très compatibles. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure que j'ai eu de plus en plus de mal à garder les musiciens et les amis avec lesquels je faisais de la musique, est venu le projet de faire quelque chose tout seul, justement pour être autonome, pour pouvoir mettre en place toutes les idées que j'aime et que j'avais envie de faire. Et naturellement, le fait de travailler avec un piano mécanique, ça m'est venu comme ça, lentement, puisque j'adorais le son du piano, un peu le piano bastringue à l'ancienne, qu'on peut entendre sur des vieux disques de jazz. Moi, je joue un peu de piano, mais pas assez bien, malheureusement, pour jouer ces morceaux-là, qui, paradoxalement, même si ce sont des morceaux populaires de jazz, sont très très techniques. Faut savoir qu'à l'époque, les musiques populaires, c'était joué quand même par les meilleurs musiciens du moment.
Oui.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui,
entre parenthèses.
Mais voilà, et donc, j'ai eu la chance, en faisant les brocantes, de voir qu'il y avait des petits pianos qui pouvaient se manipuler facilement. Parce qu'un piano droit, c'est très lourd,
on les
met dans le salon, il faut trois personnes pour les bouger, etc. Et j'ai découvert qu'il y avait des petits modèles qu'on pouvait facilement mettre dans la voiture et qu'on pouvait bouger. Bien sûr, ce ne sont pas des pianos mécaniques, mais comme je suis aussi bricoleur, j'ai décidé de créer moi-même un mini piano mécanique qui pourrait m'accompagner dans mes aventures.
Tu lui as donné un nom à ce piano mécanique ?
Au début, il n'avait pas de nom. D'abord, il fallait voir si ça fonctionnait, si le mécanisme pouvait fonctionner. Et là, donc, j'ai demandé conseil à mes amis du monde forain qui travaillaient sur les instruments de musique mécanique pour savoir comment on pouvait faire pour mécaniser soi-même un piano. Donc, ils m'ont dit, ils m'ont expliqué, c'est pas très compliqué, c'est des électro-aimants qui actionnent les touches, qui sont commandés par des cartes informatiques au format MIDI. Et comme j'ai fait beaucoup de synthétiseurs, je connaissais ça sur le bout des doigts. Et pendant 3-4 ans, j'ai fait des essais et j'ai réussi à monter mon piano mécanique.
Donc ça fait 4 ans que tu as mis pour ce projet, pour l'installation.
Le projet, ça fait au moins 5-6 ans qu'il est dans ma tête. Et donc, je lui ai donné vie, en fait, il y a 3 ans.
D'accord.
Donc 3 ans plus 4, ça fait 7-8 ans que le piano mécanique était en construction, parce que voilà, il a fallu faire des essais. Et ensuite, une fois que je l'ai eu dans les mains, ce piano, il fallait lui faire jouer des airs.
Bien sûr.
Et donc, j'ai trouvé sur Internet des fichiers informatiques qui étaient des scans des rouleaux de papier, qui étaient les arrangements originaux des pianos de l'époque. Et donc, j'ai fait une longue sélection et j'ai trouvé à peu près une trentaine d'arrangements sur lesquels j'ai réussi d'abord à greffer ma voix, à chanter dessus. Et après, au départ, je voulais juste ajouter un tambour ou une grosse caisse. Et finalement, j'ai fini par créer complètement une petite batterie à l'ancienne. C'est ce qui a donné le cocktail de ce qui s'appelle aujourd'hui Gatsby Music. Un piano mécanique, une batterie, un chanteur. Et il y a aussi une petite basse, il y a une basse synthétique qui donne du corps à l'ensemble et qui fait que le tout a le rendu d'un petit quartet de jazz.
Donc c'est un concept.
C'est un concept que je n'ai jamais vu ni entendu ailleurs. J'ai beaucoup regardé sur Internet s'il n'y avait pas un type qui avait eu la même idée de chanter tout seul avec un piano mécanique, et je n'ai pas trouvé. Donc je pense que oui, c'est un concept original, et donc je suis assez fier d'avoir réussi à le monter.
Donc quand tu as voulu montrer ce que tu faisais avec Gatsby Music, est-ce que tu avais un peu d'appréhension, ou tu te disais que ça allait plaire? Est-ce que tu avais une idée de ce qui allait en découler?
Non, j'avais de l'appréhension parce que, en fait, le piano en soi n'était pas un très bon piano. Il faut savoir que c'est des petits pianos qui sonnent pas très bien. Ensuite, les arrangements étaient bien, Mais le piano n'ayant que 5 octaves, ça enlève quand même une bonne partie des basses et des aigus. Donc j'ai dû réadapter les arrangements. Donc je me suis dit peut-être que ça va enlever du corps à l'arrangement parce que j'ai moins de basses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû rajouter une basse. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait après coup parce que je voyais que ça ne fonctionnait pas sans les basses originales du piano. Après, comme tout a été monté et un peu de briquet de broc, le rendu final, c'était la grande inconnue. Donc moi, je trouvais que ça sonnait bien à la maison, voilà, dans mon studio. Un jour, je me suis dit, il faut que je teste, et puis on verra comment les gens vont réagir. Soit ça va marcher, et si ça marche pas, ben tant pis, ben, ce sera un petit projet perso que j'aurais fait vivre et que je donnerai vie en vidéo, ou voilà, avec un petit peu de mise en scène derrière, et puis d'arrangement et de réglage sonore. Donc voilà, le gros enjeu, ça a été un jour de le faire en live, et de chanter pendant une heure avec ce piano mécanique devant des vrais gens, et voir ce qu'ils en pensaient.
Et quand tu te lances comme ça, on t'a vu jouer, effectivement, on a l'impression que tu incarnes un personnage justement de cette époque. Toi, quand tu joues, est-ce que tu as la sensation d'être dans cette autre époque? Tu vis pleinement? Comment tu vis les choses?
Je le vis pleinement. Et en fait, c'est la magie qui s'est passée avec ce projet. C'est que dès que j'ai senti qu'au niveau de la musique, il y avait quelque chose, et le côté original du piano mécanique, et puis le fait que j'avais trouvé des éléments de percussion qui étaient vraiment des choses très anciennes, etc., je me suis dit, c'est un projet qui doit visuellement aussi attirer l'œil et qui doit être un petit univers en soi. Et là, j'ai réfléchi, et donc je me suis façonné un espèce de personnage. Bon, moi, j'adore la culture rétro, j'ai beaucoup de fringues, etc. J'ai énormément écouté de musique, vu de comédies musicales, j'ai fait moi-même des claquettes, voilà, donc je suis vraiment imprégné de cet univers-là. J'ai la chance d'avoir un peu un look aussi qui s'y prête. Donc Gatsby Music, je l'ai vraiment créé pour que ça soit effectivement comme si c'était un personnage issu du passé. Donc en jouant un peu aussi la comédie. Et parce que c'est sincère et parce que c'était ressenti, eh bien je pense que ça a vraiment fonctionné.
Oui,
et
puis ça se ressent sur scène. Et tu parlais de rétro justement. D'après toi, ça vient d'où cet attrait pour le rétro? Ça vient de ta famille, de ton enfance ou tout simplement ça ne s'explique pas? C'est une période que tu as toujours aimée ou...
Me concernant, ça, je sais que ça vient de mon enfance parce que j'aimais déjà écouter... alors à l'époque, je ne savais pas trop... Moi, je me suis ouvert à la musique très jeune parce que, comme je te disais, mes parents étaient du monde forain et avaient des manèges, donc on passait des disques. C'était des
auto-entrepreneuses. Oui, vous viviez dans ça, oui.
Moi, j'étais à 10 ans, j'étais DJ au manège de mes parents. On passait beaucoup de variétés. Mais moi, à 8-10 ans, ce que j'aimais, c'était Elvis Presley.
D'accord.
Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'aimais bien dans Elvis Presley, c'était sa première époque. Et tous les rythmes d'Elvis Presley à la première époque et tous les riffs qui étaient joués par sa guitare, en fait, c'était de la copie des big bands.
D'accord.
Des orchestres de jazz d'une décennie avant.
Donc ça s'est affiné, en fait.
Ça s'est affiné parce que j'ai découvert les orchestres de jazz, donc, notamment le plus connu, c'est Glenn Miller. Et en fait, je suis rentré dans le jazz par cette voie-là. Et ensuite, j'ai découvert tout un univers. Et j'ai vraiment accroché parce que c'est de la super musique. Ouais. C'est des super musiciens, c'est hyper léché au niveau des arrangements, de la composition musicale, c'est beau, ça fait rêver, ça fait danser, et ça véhicule une image un peu glamour, un peu chic, un peu valorisante des hommes et des femmes, parce que dans toute l'imagerie de cette époque-là, bah, les gens sont beaux, sont élégants, c'est romantique, c'est fleurs bleues, et en même temps c'est du talent. C'est des bonnes références.
Magnifique. Et ton inspirateur? Ou tes inspirateurs? Tu parlais de Glenn Miller, justement.
Glenn Miller, ça a été l'entrée. Ensuite, j'ai découvert tous les grands orchestres de jazz de cette époque. À la fois les orchestres blancs, comme par exemple Tommy Dorsey, qui était aussi un très très bel orchestre de jazz blanc, donc des arrangements très, très léchés, très, très virtuoses, etc. Et en face de ça, il y avait les orchestres noirs, donc principalement Duke Ellington, qu'on retient surtout parce qu'il jouait au Cotton Club et qu'à cette époque, il y a eu une parenthèse enchantée où les Blancs venaient applaudir les Noirs à New York avant même qu'on parle tellement de ségrégation et de racisme. Donc ça, c'est quelque chose qui est marquant. Mais il y avait aussi Count Basie. Après, il y avait d'autres orchestres moins connus comme Jimmy Lunceford, etc. C'est des orchestres qui ont marqué leur époque et qui étaient des orchestres de danse et des orchestres d'innovation. Et sur ces orchestres se créaient des chanteurs ou des chanteuses. Billie Holiday, Ella Fitzgerald pour les Noirs, mais après des chanteuses comme Anita O'Day, ou enfin ouais. Il y avait aussi des chanteuses blanches et aussi des groupes de chanteurs qui chantaient en harmonie vocale. Comme par, il y avait par exemple les Moderners qui chantaient avec Glenn Miller, il y avait les Pete Peepers qui chantaient avec Tommy Dorsey, c'était là où le premier orchestre vocal de Frank Sinatra.
D'accord.
Et c'était des harmonies vocales absolument fantastiques. Et après, ces harmonies vocales ont viré dans les années 50 et 60 avec les orchestres noirs comme les Ink Spots ou les Platters, qui chantaient aussi des harmonies vocales, mais sur des chansons un peu plus 60s. Et ça, ça m'a toujours fasciné, surtout en tant que chanteur. Et j'ai eu la chance d'expérimenter ça dans un orchestre de jazz en chantant ces chansons en harmonie vocale.
C'est magnifique, ouais.
Donc mon inspiration, c'est ça. C'est les grands orchestres d'avant-guerre, blancs et noirs, et les groupes de chanteurs en harmonie vocale.
Alors, on reparle des années 20, les années folles, qu'on appelait aussi, où il y avait un souffle de liberté. Pendant les années 20, tout était permis, les gens voulaient s'amuser, voulaient vraiment se débarrasser de cette image de Première Guerre mondiale un peu bouchère. Donc on s'amusait beaucoup et on laissait place à la fantaisie, à toutes les excentricités. Enfin, surtout à Paris, dans cette élite. Cette image de liberté, tu penses qu'on l'a toujours actuellement ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense qu'on l'a toujours. On l'a toujours et on y aspire. On a redécouvert ça, c'est devenu à la mode, c'est vrai, depuis une dizaine d'années. On aime bien se plonger dans cette imagerie. Ça fait aussi référence à une période où on sortait d'époques difficiles. Et aujourd'hui, on peut faire un parallèle parce que voilà, on vit quand même une époque qui est pas évidente, qui est compliquée, où on perd un peu ses repères. On perd aussi un peu d'authenticité avec la virtualisation du monde, des réseaux, etc. Donc, ça fait du bien de se replonger dans cette époque. Maintenant, honnêtement, je pense pas qu'on puisse de là se dire qu'on vit la même chose que ces gens-là, qui ont quand même vécu des drames absolument, les pires drames de l'humanité. Et je pense que si nous-mêmes on vivait un drame, d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec le confinement.
Exactement.
Quand on ressort, etc., on a une espèce d'élan vital, une bouffée d'oxygène. On a envie de. Et je pense que.
On peut entrevoir ce qu'il vivait.
On peut entrevoir ce qu'il vivait, on peut pas encore le voir.
Même si on ne peut pas, voilà, tout à fait.
Voilà, mais on peut légitimement s'en inspirer et c'est une très belle référence.
Et culturellement, est-ce que tu as un artiste qui t'a vraiment marqué dans cette époque, les années 20-30 ?
Dans cette époque-là, hormis tous
les
orchestres, etc.,
orchestres,
qu'on a cités auparavant, en fait, il y a plusieurs artistes qui me viennent à l'esprit. Le côté parisien et Année Folle à Paris, pour moi, c'est le couple Kiki Montparnasse et Man Ray.
Oui.
Parce que c'est en même temps c'est mystérieux, c'est assez torride, c'est extrêmement esthète au niveau de leur imaginaire, de leur esthétique. Ce sont des gens qui ont marqué leur génération en vivant finalement une espèce d'histoire d'amour avec un fantasme artistique de photos et de musique en plus. Enfin, c'est une parenthèse rêvée qui est devenue une icône pour le monde entier. Donc ça m'a profondément marqué.
Puis Kiki de Montparnasse, un personnage bien trempé quand même.
Bien trempé, qui est à l'origine de l'image de la garçonne en France et puis de l'émancipation des femmes. Mm-hmm. Après voilà, mais tout ça en fait c'est un petit microcosme parisien et je pense que les Français de l'époque, hormis les gens qui habitaient à Paris et à Montparnasse...
Je pense ne se rendaient pas forcément compte, parce que c'était
parler,
l'élite,
voilà, c'était
où on vivait la liberté, mais les personnes qui vivaient dans les champs, etc., ne connaissaient pas tout ça, en fait. On va revenir à ton groupe, Gatsby Music. Alors, parle-nous un petit peu du répertoire, Christophe.
Alors, le répertoire, il a été dicté par le fait que je voulais vraiment restituer un jeu d'époque, et donc, par cela... restituer les arrangements qui étaient joués par les vrais pianos mécaniques. Parce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas encore le disque et que la radio était balbutiante et avec une sonorité qui n'était pas très très bonne, quand les gens voulaient danser à la maison, s'ils n'avaient pas les moyens de faire venir des musiciens, ils avaient deux options. Ils avaient soit l'électrophone ou le gramophone avec un son un peu nasillard.
Tout à fait.
Ou alors ils avaient la musique mécanique. Et là, s'ils avaient un piano chez eux qui était mécanisé, parce que c'était très très en vogue à l'époque, bah, c'est comme s'ils avaient un pianiste à la maison. Mmh. Et donc, il y avait tout un marché d'arrangements, c'était des rouleaux de papier perforés que les gens mettaient dans leur piano et pouvaient jouer tous les airs à la mode. Et ces arrangements étaient faits de façon à ce que ce soit dansant, tout en reconnaissant bien les airs, etc. Mmh. Et moi, c'est ça que je voulais donner. Et comme aux USA, il y a des gens qui sont fans de cette époque et qui veulent préserver cette musique, ils ont tout numérisé, les rouleaux de papier au format MIDI, donc c'est le format informatique musical, et c'est libre de droit. Mmh. Et donc j'ai pu récupérer beaucoup de très beaux arrangements que mon piano jouait avec... ça rendait très très bien. Et comme ce sont des chansons à la base, j'ai décidé d'adapter ces chansons. Et donc ce sont les succès de l'époque, et principalement les succès de... Irving Berlin, Cole Porter, George Gershwin, donc tous les grands succès américains de l'époque des années 20, 30, 40 que l'on retrouve dans le répertoire de Gatsby Music aujourd'hui.
Tu nous as gentiment prêté des morceaux, justement. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces morceaux ?
Oui, je vous ai ramené une petite... C'est la bande démo de Gatsby Music.
D'accord.
Dans laquelle, pendant 3 minutes, en fait, je donne un petit florilège des différentes chansons que l'on peut entendre dans le répertoire. Alors, ça va, par exemple, ça commence par Singing in the Rain, donc de Chantons sous la pluie, ouais, de la génial. Comédie musicale. Après, on entend du ragtime, on entend des choses... comme la version de Titina qui était dansée par Charlie Chaplin dans les temps modernes. On entend aussi du Fat Wallers, on entend la bande originale du film Casablanca avec As Time Goes By. Enfin voilà, c'est vraiment de la comédie musicale et les succès de l'époque qu'on va entendre sur cette bande démo de Gatsby Music.
Eh bien, on te remercie, c'est super gentil. Alors, j'ai encore quelques questions, hein, c'est pas fini. Tu as joué dans de nombreux lieux, notamment à la Coupole. Alors, ça fait quoi de jouer à la Coupole ?
Alors, c'est un plaisir et c'est un honneur de jouer à la Coupole. La Coupole qui, par bonheur, en fait, s'est réinventée récemment, puisque c'était un lieu, bon, la Coupole de Grande Brasserie de Montparnasse, qui a vécu les belles heures des années folles. Avec Joséphine Baker et son guépard qui venait déjeuner, enfin voilà. Et,
sa petite panthère, et sa petite, Paquita.
Voilà, c'est ça, des soirées de folie, voilà. Et la Coupole a vieilli, et dans les années 70, c'est devenu une vieille brasserie parisienne un peu poussiéreuse. Et depuis quelques années, le nouveau groupe qui l'a racheté a tout rénové, l'a remise dans son jus art déco. Très très belle réalisation. Et on a confié la programmation artistique à un personnage qui s'appelle la Baronne de Paname.
Formidable.
Voilà, que l'on embrasse, qui fait les plus belles soirées rétro-parisiennes et que j'ai la chance d'avoir connu en proposant des groupes de musique. Avec la Baronne, on a fait beaucoup de concerts. Mm-hmm. Notamment, on a fêté la libération de Paris à la fois à Place de la Bastille en 2004 avec 60 000 personnes.
Oh, génial.
On a fait aussi l'anniversaire de la libération de Paris, c'était en 2012, devant le parvis de l'Hôtel de Ville aussi. Et c'est mon groupe de l'époque qui a eu la chance d'avoir... remporter le concours pour animer ces soirées. Donc avec la Baronne, c'est une vieille histoire. Et quand elle a dit on va faire revivre la Coupole, et là je lui ai dit mais
je suis prêt
j'ai un projet, et ça a participé aussi de ma volonté de boucler Gatsby Music, etc., puisque c'est une des premières scènes qu'elle m'a proposé de faire, c'est avec Gatsby, c'était à la Coupole.
Ah, c'est génial. Et alors où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité?
Alors, mon actualité, elle est principalement sur Facebook.
D'accord.
Puisque je n'ai pas de site web dédié à Gatsby Music, mais aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les pages Facebook, qui était quand même un très bon outil pour partager la musique. Hein, on peut avoir toutes les réserves qu'on veut sur Facebook, voilà, pour les gens qui mettent leur vie dessus, etc. Mais pour communiquer sur un produit, une musique, etc., Facebook, ça reste quand même un super outil. Donc, voilà, Facebook, Gatsby Music. Ou Christophe Avril, qui est mon profil, où là vous allez retrouver un petit peu un moteur vers mes autres projets musicaux. Parce que voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc.
Un artiste accompli. Alors, je te remercie Christophe pour nous avoir répondu à toutes les questions. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça, ton projet, aux années 20 ? Est-ce que tu as des dates prévues ? Où on peut aller te voir en concert ?
Alors, à ce jour, je n'ai pas de date encore qui sont fixement programmées. Mm-hmm. On a vécu une parenthèse très compliquée, voilà, au premier semestre avec la crise sanitaire, ce qui fait que les programmations, il y avait des concerts de prévus qui sont reportés, ou voilà, mais on a encore un petit peu de mal à se remettre dans le bain. tant que les conditions ne seront pas très précises en termes d'accueil des événements culturels. Mais voilà, dès que ça reviendra, si vous êtes intéressé pour venir dans les soirées, les belles soirées aussi des années folles avec Elisa et folles. Toute sa troupe.
Oui, tout à fait.
Qui vont redémarrer aussi.
Oui, oui.
Voilà, vous venez voir nos pages Facebook et vous vous tenez informé. J'espère qu'on pourra faire la fête à nouveau très vite tous ensemble.
Oui, ce sera le mot de fin, je pense, hein, faire la fête, garder cet esprit de joie de vivre et puis continuer surtout à sourire comme tu le fais, avec élégance.
Eh ben, merci beaucoup Elisa et tu souris beaucoup aussi.
Merci Christophe, à bientôt.
À bientôt.
Ciao. Donc vous avez entendu l'interview faite avec Gatsby Music, un talentueux artiste de notre Nord. Donc je vous avertirai bien sûr des concerts qui se feront et des soirées que nous faisons avec mon association Les Années Folles notamment. Je vous invite à terminer cette émission qui j'espère vous a plu, hein, et vous a vraiment donné envie de connaître l'univers de Gatsby Music et également de revoir la filmographie de Gatsby le Magnifique. Alors pour terminer, je vais vous passer deux morceaux de Gatsby Music qui s'appellent Swing Tabby et également Brother Swing. Donc Swing Tabby, c'est une chanson écrite en 2005 avec le groupe de Christophe qui s'appelait Radio Swing Quartet. C'est une chanson autobiographique donc qui représente le personnage imaginaire qu'il était devenu à l'époque, hein, le Tintin du swing. Et ensuite, eh bien, on terminera donc par Brother Swing. Voilà, je vous souhaite une excellente rentrée et puis n'hésitez pas à écouter les prochaines émissions qui seront diverses et variées et j'espère qu'ils vous intéresseront. Et n'hésitez pas à me contacter via la page Les Années Folles, donc qui est la page de mon association, et également à me faire part de vos remarques via la page de Radio Scarpe Sensé, où vous pouvez me retrouver également. Voilà, je vous souhaite une excellente rentrée les amis, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures musicales et culturelles. C'est parti, à très bientôt, ciao.
1935, au Savoy Dancing de New York. Pour la toute première fois, un danseur fait voltiger sa partenaire dans les airs. C'est Frankie Manning. McCartney, saviez-vous que les fous déjà se pressaient sur le bois des parquets pour un groove endiablé? Au son des Big Bands, bien Willie Lynch, sport de Calloway, dans les clubs du Harlem, alors bien fermé paradis des Hopper, c'est là que Frankie est né. Savoy Dancer, au Cat's Corner, au jour il entra dans la légende en créant un nouveau pas, jamais vu jusque-là. Partenaire s'envola dans les airs comme le Spirit of St. Louis. C'est ainsi que Frankie se masse en épices. C'est pas ce d'anthologie. Thanks Frankie Manning, Brother Swing, for giving us a world of dance and pleasure. We are ready now for a new swing era. Hey Frankie Manning, Papa Swing, c'est l'écho de ton cœur que l'on retrouve dans le rythme de nos pas. Dans le son de nos voix. Et aujourd'hui, toujours présent, à 90 printemps, il court le monde apportant la bonne parole à des milliers de danseurs, beginners ou vétérans. Il nous fait remonter le temps en rétro nos vêtements. Aime à compter les histoires du temps des grands orchestres jazz d'antan. Et le swing à pleines dents. Et l'orgue chamante, il est le roi, claquant des doigts sous la baguette de Frankie, s'enchaîne les pas, break it, boogie back, Shorty George, over. Si vous voulez décoller votre esprit comme le Spirit of St. Louis, suivez Frankie pour un tour de piste, vous l'aurez pour la vie. Thanks Frankie Manning, Brother Swing, forget.
giving us a world of dancing pleasure. We are ready now for a new sweet era. Hey Frankie Mani, Papa Swing, c'est l'écho de ton cœur que l'on retrouve dans le rythme de nos pas et dans le son de nos voix.
D'être un reporter, artiste à 16 heures. Je suis un fou chantant dans l'âme. Je bosse en bureau, c'est mon drame. J'attends le soir pour m'évader de swing, cinéma, jazz, bouquin, BD. Hier, je lisais bout à bout un roman de Gaston Leroux. J'ai adoré ces aventures qui roulent à la figure. Et depuis, je m'identifie, me suis trouvé la panoplie pour que ma vie s'émoustille. Je deviens Swing Tabby. Gavroche sur le chef, fendant l'air sur une Indian Chef, une guitare à ma portée, les aventures vont commencer. Swing Tabby, je suis Swing Tabby, cousin Frenchy de Dick Tracy, plus jazzy, comme Rocambole au Cotton Club, Tintin dopé au Jitterbug, Vidocq et Bob Moran, jamant sur Benny Goodman, joyeux gris, je suis Swing Tabby. Même Fantomas se rhabille. Attention les filles,
oh, Swing Tabby.
Arsène Lupin n'est qu'un frimeur. Je suis le reporter crooner, promettant l'aventure en note bleu azur. Bon, le décor est planté. Je ne suis guère avancé. Que peut bien faire mon personnage sans le sou pour ses voyages? Une échappée en pavoitine, une course poursuite en dauphine, fusillade dans un dancing. Faut des dollars, je n'ai qu'un retrim. Hey, la solution, ce sera mes chansons. De parfaites escales pour des aventures sidérales. Et toutes mes clés d'énigmes au choix, en sol, en ut, en fa, pousseront mes alter ego à se remettre au boulot. On verra Mata Hari scatter jusqu'à l'apoplexie, Hercule Poirot en transe. Dansez, mettez-vous dans l'ambiance.
Je suis Swing Tabby, cousin Frenchy de Dick Tracy, plus jazzy,
comme Rocambole au Cotton Club, Tintin dopé au Jitterbug,
Vidocq et Bob Moran, jamant sur Benny Goodman, joyeux gris.
Oui, Swing Tabby, même Fantomas se rhabille, famez-vous les filles. Arsène Lupin, c'est un gamin,
je suis le crooner baladin,
promettant l'aventure
en note bleu azur.
C'est parti!
Mesdames et messieurs, édition spéciale! Ne manquez pas les aventures de Swing Tabby!
Le Big Bang de la Grande Muraille,
c'est tout Swing Tabby, Swing Tabby!
Le son de la pierre quoi?
Swing Tabby, Swing Tabby!
Le mix était presque parfait!
Swing Tabby, Swing Tabby!
Duel de claps et d'effets!
Swing Tabby!